Radio Canut présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Du sang pour les élus. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Xavier, un soir, retrouve Sylvie rue de la République. Bonjour Sylvie, salut. Tu es toujours fâchée? Un peu, oui. Mais peut-être que tu restes avec moi ce soir. Xavier est content. Dans sa pièce et s'allonge. Xavier est moins surpris et dégoûté, ce qui fait qu'il peut mieux bander. Cette nuit-là, ça s'est bien passé. Le vendredi à 18h, Richard et son père qui le reçoit à son bureau. Vaste pièce avec bibliothèque, vaste bureau en pierre, des fauteuils et une table basse. Ils vont s'asseoir pas au bureau, mais près d'une table basse. Le père lui dit : Alors, que comptes-tu faire ?
Je ne sais pas, la vie que je mène pour le moment me plaît.
Tu veux rester vendeur toute ta vie ?
C'est un métier comme un autre.
Oui, mais qui ne paye pas et qui n'a pas d'avenir. Soyons sérieux. Je désire que tu reprennes tes études pour faire ton droit.
Les études ne me disent rien.
Les études sont un travail comme un autre, mais qui peuvent rapporter gros plus tard. Jouons cartes sur table. J'accepte que tu vis seul dans un boui-boui. Il faut bien que jeunesse se fasse, mais... Si tu ne reprends pas tes études à la rentrée prochaine, je te coupe ta pension et tu verras si tu pourras vivre seul. Encore une chose, je ne veux plus que tu fréquentes certaines personnes.
Mais Xavier, père, est un ami et mère l'a reçu plus d'une fois. Elle l'aime bien.
Ce n'est pas de ce gentil jeune homme dont je parle. Je veux parler des autres, de ces anards qui font de la radio.
Je ne les vois plus depuis longtemps, père.
Bon, ne nous égarons pas. Et pour tes études, que comptes-tu faire ?
Richard est tout rouge. J'ai dit à mère que si c'était vraiment indispensable, je reprendrais les cours.
C'est bien. Je vois que tu es raisonnable. Je reviendrai un de ces soirs te voir. Et que comptes-tu faire cet été ?
Je ne sais pas.
Viens avec nous, nous allons faire un grand périple, les périls de Loire, l'Allemagne et peut-être même Rome.
Je ne sais pas. Je verrai, père. Le soir, pour rentrer chez lui, lorsqu'il est seul, Javier fait un petit détour en passant devant la maison où habitait Maurice. Un soir, il est surpris de voir arrêter devant l'immeuble la limousine noire d'Hélène. Que vient-elle faire ici? Peut-être a-t-elle garé sa voiture là, mais est allée ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Mais il a envie d'attendre un peu sur le trottoir d'en face en faisant attention de ne pas être vu par le chauffeur. 5 minutes plus tard, il voit Hélène sortir de l'allée. Avec la concierge qui lui fait des courbettes, Hélène lui parle, semble lui donner de l'argent et entre dans sa voiture qui part immédiatement. Qu'est-elle venue faire et quel rapport y a-t-il entre Maurice et elle? 2 meurtres dans le même quartier et Hélène qui semble faire le lien entre les deux. Qu'y a-t-il entre Hélène et ses 2 victimes, dont une a peut-être été tuée par elle? Cette grande dame si mondaine, qu'a-t-elle à voir avec ces 2 personnes si simples? Xavier n'arrive pas à comprendre. Un soir, Richard rentre chez lui. Et trouve son père dans la pièce principale en train d'ouvrir les tiroirs du buffet. Il semble chercher nerveusement. Il n'a même pas entendu son fils entrer, tellement il est pris dans ce qu'il fait. Père, que faites-vous ici? Le père se retourne et sourit.
Bonjour, fils. Tu vois, je t'avais dit que je viendrais te voir, et bien me voilà.
Mais comment avez-vous fait pour entrer?
Oh, ça, c'est mon secret.
Tu n'es pas content de me voir? Oui, bien sûr, mais que cherchez-vous?
Moi? Il hausse ses épaules. J'ai fait une enquête sur mon fils pour voir s'il est heureux.
Tu me fais pas un café? Oui, bien sûr. Richard va dans un coin cuisine préparer le café et dit à son père de s'asseoir.
Gentil chez toi, simple mais propre. Pour un jeune, ça peut aller. Il faudra aller rendre visite à ta mère.
Richard apporte le café. Oui, père. Et il le sert.
J'espère que tu sais faire le café.
Il en boit une gorgée.
Cela peut aller. Alors, ton ami habite sur le même palier?
Oui, père. Pendant ce temps, Xavier est chez Sylvie. Il lui a raconté l'énigme du drame et du crime de son voisin et de Maurice et d'Hélène. Après réflexion, Sylvie lui dit « Il ne faut pas se fier aux apparences. Pour ce qui est du crime de ton voisin, tu as entendu un coup de fusil, mais tu n'as pas vu qui a tiré. Ce peut être elle ou un autre. Ou pourquoi pas un suicide ?» Xavier dit, « Pourquoi est-elle partie comme cela, comme une coupable ?»«
Ça, c'est toi qui le dis. Si s'est suicidé devant elle, ou s'il a été tué par une personne, elle a dû prendre peur, paniquer, la peur du scandale, de la police. N'oublie pas qu'elle est mariée. »
Ce que vient de lui dire Sylvie met le trouble dans l'esprit de Xavier. Mais pourquoi cherche-t-elle à me séduire et tient absolument à me voir ? Sylvie hausse ses épaules. Elle a dû sûrement te voir lorsque tu étais à la fenêtre et quand tu l'as vue et reconnue, elle a peur, comme tu l'as, elle a mis de son fils que tu parles ou la fasses chanter. Alors, en te séduisant, elle cherche à savoir ce que tu souhaites faire et à t'empêcher de nuire. Oh, puis assez parlé de ça, mon chéri. Allez, viens. Elle l'embrasse et l'attire à lui. Xavier revient du cinéma, le cinéma. Il est 00h30. En traversant l'allée de l'immeuble, pour aller dans son immeuble, dans l'arrière-cour, l'allée est sombre et noire. Il y a juste une lampe vers les boîtes aux lettres. Tout à coup, il se sent pris par derrière. Il essaye de se défendre. Mais une main lui applique sur le nez un tampon. Et il se sent bizarre. Et en quelques secondes, Xavier perd connaissance. Un grand trou noir. Il ouvre les yeux, il ne peut bouger. Il est allongé, regarde autour de lui, on ne reconnaît pas cette pièce. Il est dans la demi-obscurité. C'est une chambre. Devant lui se trouve une fenêtre. Et à gauche, une armoire en pierre, allongée sur les draps. Xavier ne peut ni bouger, ni vraiment réfléchir. Combien de temps est-il resté ainsi? Il ne sait. La porte s'ouvre. L'ombre est entrée et éclairé la lampe de chevet. Il a vu pencher sur lui Hélène. Elle lui dit « Chut, vous êtes encore sous l'effet de la drogue. Ça va vite passer. Ce n'est pas grave. C'est moi qui vous ai fait enlever. Je vous demande pardon. » Vous m'entendez, Xavier? Vous m'entendez? Faites-vous de la tête. Faites-vous de la tête. J'ai besoin d'un service pressant. J'ai plus à voir que vous. Je vous demande, c'est de ne pas poser de questions. Elle sourit, lui caresse ses cheveux, lui dit « Vous êtes beau comme ça. » Lui donne un baiser sur la joue. On dirait un petit ange. Cela ne me surprend pas. Car vous êtes de cette race. » Elle continue à caresser les cheveux. « Il faut que je vous dise le service que je vous demande. Ce matin, vous allez aller chez Monseigneur Leclerc, évêque à Fourvière. Vous le porterez un document. Je ne peux y aller. Il ne faut pas que l'on sache que je lui remets ce document. C'est très important pour nous et pour vous. » pour l'avenir. J'en dis trop. Vous le saurez plus tard. Alors, vous acceptez de me rendre ce service? C'est très important pour moi, pour mon mari, et surtout pour Richard, et pour vous, bien sûr.
Xavier fait oui de la tête. Il accepte car il sent qu'elle est sincère. Elle l'embrasse sur le front, se relève et dit
« Posez-vous une heure encore. Ensuite, je vous apporterai un bol de bon café. »
Éteint la lampe de chevet et sort de la pièce.
Xavier se rendort, puis il se réveille. La pièce baigne de soleil. D'avoir dormi, celui-là lui a fait du bien. Il s'étire et se lève. Il se souvient de tout. L'on frappe à la porte. Entrez.
Vous êtes levé?
Oui. Elle pose sur la table le bol.
Tenez, buvez.
Il s'assoit à table pour boire.
Je suis prêt.
Je ne comprends rien à ce que vous m'avez dit.
Vous comprendrez plus tard. Venez, vous allez aller dans la salle de bain, vous rafraîchir un peu, ensuite vous partirez.
Il se lève et suit Hélène.
Après qu'il est sorti de la salle de bain, Hélène lui donne un maroquin bordeaux avec dessus gravé un écusson avec un diable.
Voici, ce que vous donnez, vais donner. Et sur ce papier se trouve l'adresse de Monseigneur. Ne vous attardez pas en route et revenez-moi pour me dire ce qui s'est passé.
Bien, madame.
Monseigneur Leclerc habite sur les pentes de Fourvière.
Xavier sonne.
Un homme lui a ouvert, vieux, petit, costume gris.
Vous désirez?
J'ai quelque chose à remettre à Monseigneur. Donnez-le-moi. Non, l'on m'a dit que je devais lui remettre en main propre.
Alors entrez,
dit l'homme vexé. Xavier entre et il ferme la porte.
Le couloir est sombre, il y a des escaliers de pierre. Xavier suit l'homme qui le fait monter. Ça sent l'encens, la rose et la cire. Il y fait étrangement frais. Au premier étage, un couloir, à terre un tapis rouge, contre le mur des bancs de bois et sur les murs des tableaux religieux. L'homme frappe à une porte.
Entrez!
Il entre en faisant signe à Xavier de l'attendre. Une minute plus tard, l'homme sort et fait rentrer Xavier. La pièce est vaste, c'est un bureau. Derrière une fenêtre, une grande table qui sert de bureau. Une bibliothèque et des chaises en paille. Assis au bureau, un homme qui semble grand, maigre, cheveux gris, visage osseux, habillé en soutane noire. Il y a un papier,
parmi une foule de papiers qui se trouvent sur son bureau. Il y a aussi un Christ en bois. Il lève la tête.
« Vous désirez, jeune homme ?»«
Je suis venu vous apporter ceci. »«
Approchez. »
Il s'approche. Étant le marocain, le prêtre le prend, le regarde, l'ouvre sans sortir ce qu'il y a dedans. Il l'a refermé, puis regarde Xavier.
C'est une affaire délicate, très délicate. Vous savez ce que c'est ?
Non, monseigneur.
Bien, importante, primordiale, mais il vaut mieux que vous ne le sachiez pas. Madame Leroy me dit que vous aussi, vous en êtes. Chose prodigieuse. C'est Dieu qui fait ça à chaque fois que l'humanité a besoin d'aide. Ils réapparaissent, mais... Surtout, ne dites rien à personne. Ne parlez surtout pas de cela. Surtout pas à un prêtre. Vous avez vu, je porte la soutane. Vous direz à Madame Leroy que son courrier sera transmis au pape et qu'il donne déjà son adhésion. Merci, jeune homme.
Xavier se retire. Dehors, il est tout abasourdi et se souvient que sur les amarouis, il y avait le diable. Arrivé chez Hélène, il lui dit ce qu'il a fait.
Merci, mon petit Xavier. Vous m'avez rendu un très grand service. Surtout pas un mot à personne. Même pas à Richard.
Sortant de chez elle, il se dit qu'il est dépassé par tout ça, qu'il n'y comprend rien et que peut-être Hélène n'est pas la femme qu'il croit. Un soir, Xavier invite Sylvie chez lui. Avant d'entrer chez lui, il lui dit « Attends, je vais te présenter un ami. » Et il sonne chez Richard. Qui ouvre ? Il lui présente Sylvie, les reçoit, leur offre à boire. Sylvie trouve Richard gentil, puis décide de sortir le lendemain aller voir un film. Ensuite, Xavier et Sylvie se retirent. Il lui présente son petit appartement. Elle est surprise. C'est bien, dis donc. Si j'avais ça, moi. Puis, ils font un petit repas. Xavier a acheté 2 pizzas, des œufs et des pâtes. Après le repas, ils se sont amusés sur le lit. Le lendemain au travail, Richard dit à Xavier, « Tu vas vivre avec elle ?»«
Non, c'est simplement ma copine. »«
Ah, je croyais que tu couchais avec elle. »
Xavier rougit et dit, « Ça n'empêche pas. »
« Eh bien alors, ce n'est pas ta copine, c'est ta maîtresse, ta compagne. »«
Oh là là, toi tu vas trop loin. »«
Et toi pas assez ?» dit Richard avec le sourire.
Désormais, ils sortent souvent tous les trois. Ils s'entendent bien. Un dimanche, Richard les a amenés au lac du Bourget. Ils sont partis tôt le matin, ont amené un pique-nique. Il faisait beau, ils se sont promenés.
Un matin, l'on sonne chez Xavier. Il doit partir travailler, mais il ouvre tout de même.
Sylvie, tout essoufflée.
Sylvie, que t'arrive-t-il ?
Il l'a fait entrer.
L'amène s'asseoir. Le penche vers elle et lui caresse les mains.
Que t'arrive-t-il ? Parle, allez.
Cette nuit, j'étais dans mon lit à dormir.
J'ai ressenti des mains à mon cou. Je me suis réveillé à pleurer.
Une ombre penchée sur moi. J'ai crié.
Mais on s'est enfui en se montant sur la table pour sauter le mur qui sépare les deux chambres. J'ai continué à crier. Les gens sont sortis sur le palier. Ils ont frappé à ma porte. J'ai ouvert. Ils ont demandé ce qui s'était passé. J'ai raconté.
Personne n'avait défoncé la porte de la chambre d'à côté, de la mienne. Mais elle était vide. Personne. Alors les gens ont cru que j'avais fait un mauvais rêve.
Une fois qu'ils sont partis, je n'ai pas pu me rendormir. Dès que j'ai pu, je suis venu te voir. Si tu savais comme j'ai eu peur, ces mains à mon cou et cette ombre, je te jure que je n'ai pas rêvé. La preuve, en montant sur la table, il a tout déplacé.
Je te crois.
Cela devait arriver.
Ce n'est pas sûr où tu habites, tu devrais déménager.
Mais aller où?
Tu vas vivre avec moi en attendant.
Merci Xavier, tout à l'heure je vais chercher mes affaires.
Xavier regarde sa montre.
Je dois partir travailler.
Il sort de sa poche le trousseau de clés.
En sort une.
Tiens, la clé de l'appartement.
L'embrasse et il se sauve.
À la librairie, Xavier raconte ce qui s'est passé.
Richard lui dit, que veux-tu ?
Il fallait s'y attendre.
Tu crois qu'elle a monté ça ? Pour venir vivre chez moi.
Moi, j'y crois, cette histoire.
Le temps passe. Xavier et Sylvie vivent ensemble. Ils voient Richard et sortent ensemble. Les vacances approchent. Sylvie va partir chez ses parents. Richard, un soir, propose à Xavier de partir avec lui et ses parents. Xavier hésite.
Je ne sais pas, et puis j'ai ma mère à voir.
C'est dommage, nous comptons tous sur toi.
Une semaine plus tard, Xavier dit à Richard,
j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle part faire une croisière avec une amie.
Alors tu es libre pour les vacances?
Oui.
Tu pars avec nous?
Oui, si vous voulez encore de moi.
Bien sûr,
et ma mère sera contente de t'avoir.
Xavier a aussi accepté pour son ami. Il avait du remords d'avoir refusé son invitation. Richard prévient sa mère. 2 jours avant le départ,
ils sont tous réunis chez Hélène. François explique le trajet du voyage.
Nous allons faire la Loire et nous arrêterons à Stenay quelques jours avant de partir pour l'Allemagne et Rome.
Richard demande, pourquoi nous arrêter à Stenay?
Je l'apprendrai lorsque nous y serons. Bon, alors, nous partons demain matin à 5h. Je vous demanderai de ne pas apporter trop de bagages et de ne dire à personne où nous allons.
Xavier, instinctivement, leur fait confiance et ne cherche plus à savoir si Hélène est l'inconnue criminelle ou non. De toute façon, si c'est elle, elle le fait dans des intentions propres.
Richard est content que Xavier parte avec eux. Je suis heureux de faire ce voyage avec toi. Ce sera un beau voyage, tu verras. Xavier lui demande. Après les vacances, que feras-tu?
Oh, je me m'inscrire à l'université pour être tranquille. Comme cela, je pourrai faire ce que je voudrais.
À 4h, Richard frappe à la porte pour prendre Xavier. Qui lui ouvre?
Il est déjà habillé, un sac de voyage est près de la porte. Richard lui dit.
Prêt? C'est bien.
Entre. On attend de prendre un café si tu veux.
Et ils sont partis dans la limousine noire. C'est François qui conduit. Le voyage se passe bien. Ils s'arrêtent pour se restaurer dans des restaurants de préférence. Ils s'arrêtent dans des petites communes. Visitent des églises, châteaux, se promènent au bord du lac, dans les bois. Charles et Xavier sont toujours ensemble. Parle, histoire, géographie aux 6 filles. Le soir, ils couchent à l'hôtel et Richard et Xavier ont la même chambre. La nuit, Richard parle de ses mémoires et de ses ennuis physiques.
Avant d'aller se coucher, Hélène et Xavier font une petite marche. Hélène prend par le bras de Xavier et lui dit
« Vous êtes des nôtres maintenant. Je suis contente que vous ayez compris. »
« Non, j'ai pas compris, mais je me laisse guider. Mais si vous pouviez m'expliquer ?»«
Patientez, Stenay est proche. »
Xavier, en se déshabillant dans la chambre, dit à Richard, « Ta mère m'unit à votre secret, mais j'y comprends rien. »
« Ne fais pas attention, ce sont des histoires d'un autre siècle. »
Ils sont arrivés à Stoney, petite ville sans importance. Xavier se demande pourquoi ils se sont arrêtés là. Puis, ils ont pris une chambre dans un hôtel. Et le soir même, François convoque tout le monde dans sa chambre. Mais une heure avant la convocation, il a fait venir Richard et lui a fait lire un livre. Ils sont tous assis en cercle dans la chambre. François parle.
« Richard, as-tu lu le livre ?»«
Oui. » »«
Il n'y a que Xavier qui ne sait pas. Voici pourquoi nous sommes ici. »
À Stoney
se trouve le premier tombeau du premier roi norvégien. Ce roi qui fait partie de la race prodigieuse, une race que Dieu a donnée comme pouvoir de savoir et la légitimité de gouverner l'homme. Cette race fait avancer les civilisations, les Égyptiens, les Grecs, les Troyens, les Juifs et les Nérovagiens en font partie. Je disais donc qu'à Stoney se trouve caché le premier tombeau du roi norovingien. Et c'est à Stoney que Nostradamus a caché les clés de ses prédilections pour le roi de France. Devons retrouver le tombeau du roi pour lui prendre une bague et du sang. Ce sang, c'est l'huile sainte. Et pour trouver la clé pour les prédictions de Nostradamus. Car le temps est venu. Nostradamus l'a prédit. Un roi doit venir sauver la France. Nous sommes les descendants des Nérovingiens de la race prodigieuse. Toi aussi, Xavier. Tu ne le savais pas, mais ma femme a fait une enquête sur ta famille.
Xavier n'en croit pas ses oreilles. Il a l'impression d'être entouré de membres d'une secte. Je ne crois pas à cette histoire. Et d'ailleurs, comment savez-vous que vous descendez de cette race ?
Nous l'avons toujours su, car nos ancêtres nous ont passé le message.
Oui, mais tout ça c'est vieux, et maintenant les rois c'est fini.
Non, Nostradamus a prédit un roi pour cette année.
Bon, je veux bien. Et qui sera le roi ?
Le descendant direct des Nérovingiens, choisi par sa famille. J'ai choisi mon fils.
Xavier regarde Richard qui ne dit rien.
« Es-tu prêt à nous aider ?»«
Au point où j'en suis, oui, » dit Xavier.
« De toute façon, tu ne peux pas refuser. Tu fais partie de la race prodigieuse. »
Xavier dit, « Je n'en sais rien. » Le lendemain matin, Hélène propose à Xavier de partir se promener avec elle. Il accepte. Ils vont dans les environs de Stoney. Prennent un petit chemin qui va dans les bois. Hélène est en robe blanche, Xavier en short et chemise blanc. Elle lui dit
« Je dois vous dire la vérité maintenant que nous sommes unis. Et puis, nous faisons partie de la même famille. Oui, c'est moi la femme que vous avez vue partir avec après le coup de feu qui a tué votre voisin. Je l'ai tuée. Parce qu'il me trompait, se comportait comme un goujat, et malgré qu'il faisait partie de notre race, il voulait nous dénoncer à notre pire ennemi, le comte de Paris. Pourquoi ai-je trompé mon mari, que j'aime et respecte ? C'est parce qu'il est stérile, ou plutôt il est devenu stérile par un accident. Que tant que je le peux, j'ai des enfants pour la survie de la race.
J'ai qu'un fils, et s'il mourait, ce serait la fin de la lignée. Alors je me donne à tous ceux qui font partie de notre race. C'est pour cela, et je vous en demande pardon. J'ai cherché à vous séduire.
Je comprends. Et Maurice Jacquard, c'était vous aussi?
Oui, lui c'était autre chose. Je voulais me venger parce qu'il cherchait à séduire mon fils. Ce porc. Il avait découvert dans un écrit qu'il avait lu une traduction pour grand public des écrits de Nostradamus qui nous étions. Il voulait s'emparer de Richard pour avoir la fierté d'avoir pour lui tout seul un membre de notre race. Après le crime, comme j'avais oublié de prendre des papiers compromettants où Boris parlait de mon fils, j'ai dit à la concierge que j'étais la belle-sœur de Maurice. J'ai pu avoir la clé de l'appartement. Voilà, vous savez tout.
Et moi, comment avez-vous su?
Vous aviez quelque chose dans le regard qui me disait que vous pouviez être de notre race. J'ai fait une enquête aux mairies. J'ai vu qu'au fil des siècles, le nom changeait et devenait un nom mérovingien. Voilà, vous savez tout.
Et comment allez-vous prendre le pouvoir?
Nous ferons ce que nous recommande Nostradamus. Et pour cela, il faut retrouver la clé qui nous permettra de déchiffrer les écrits.
Et où est-elle?
Je ne le sais.
L'après-midi, François, Richard et Xavier visitent la petite ville. Richard dit « La tombe du roi doit se trouver, à mon avis, sous l'église. »
« Mais père, l'église est récente. »
« Oui, mais elle était bâtie sous une autre beaucoup plus vieille. »
« Alors allons-y voir. »
« C'est pas simple. Pour aller dans le sous-sol de l'église, il faut une clé et le prêtre ne nous aidera jamais. » C'est un prêtre gauchiste. Heureusement, il y a le sacristain. J'ai rendez-vous avec lui au café, en face de l'église.
Comment vas-tu faire pour qu'il te donne les clés de l'église?
Je vais lui faire boire, lui faire croire qu'il y a un trésor sous l'église et que je suis seul à savoir où il est. Et que s'il me laisse faire, il y aura le trésor qui sera divisé entre nous deux.
François ramenait la clé de l'église à l'autel. Il la montre à Richard et Xavier dans sa chambre.
Voilà, j'ai les clés. Je la ramènerai demain matin. Je ferai faire des copies. On explore ce soir.
Richard dit.
Oui.
Et à 12h30, ils sortent discrètement de l'hôtel pour aller à l'église. Les rues sont désertes. Arrivés à l'église, ils vont ouvrir une porte derrière. Et sont rentrés. Il y fait sombre. François a une lampe de poche. Il leur dit.
L'entrée doit être derrière l'hôtel.
et ils y vont. Cherche. Rien. Pas de porte. Peut-être des dalles. Qui sort ? S'ouvre et permettre de descendre au sous-sol. Ouais, c'est peut-être ça. Des dalles. Avec un couteau de poche, François suit le contour des dalles. Pendant que Richard éclaire. Après une heure de recherche, il désespère. Lorsque, tout à coup, son couteau s'enfonce. Ce doit être là. Il faudra un levier, une barre à mine. Richard a une idée. La barre qui se trouve là, qui tient par un crochet, qui maintient la porte de l'église ouverte. Il court la chercher. Il l'a prise facilement. Elle n'était pas fixée, mais posée à la porte et l'a apportée. Xavier ne dit rien, a l'impression de vivre une histoire d'aventure d'un vieux film des années 30. Le père prend la barre et s'en sert comme de levier pour soulever la dalle. Il y a des difficultés et en sueur. Richard et Xavier prennent le relais. Richard et François l'ont fait glisser pour en voir le passage. Le père regarde à l'intérieur. Il y a un escalier de pierre. Je vais descendre. Restez là. Je vous appellerai. Et le père descend avec la lampe. Richard et Xavier sont dans la pénombre. Xavier ne sait plus ce qu'il doit croire ou non à cette histoire. Il se demande ce que Richard pense de tout cela. N'ose pas en parler avec lui de tout ceci. Richard lui impose le respect. Pourquoi il ne sait pas. D'en bas, il entend François qui descend. Ne les a pas appelés. Que faites-vous ici? Il se retourne et voit un homme petit, fort, les cheveux gris. Entendre le père qui commence à creuser en bas. L'homme porte un blouson et un pyjama bleu. Il a à la main une torche. Que faites-vous ici? Richard et Xavier ne savent quoi répondre. Pourquoi cette dalle est-elle ouverte? Je sais ce que vous cherchez.
je vais vous empêcher de faire revivre ces anciennes histoires. Laissez le passé où il est. Tout ça, c'est une affaire satanique. Les hommes n'ont plus besoin de cette race. Ils naissent livres et égaux. Voilà des générations que l'on s'est passé d'eux. Le socialisme est plus fort que ses croyances.
Il sort de sa poche un revolver.
Il y a quelqu'un dessous.
Richard demande. Qui êtes-vous ?
Le curé de cette église. Dites à cette personne de remonter. Je ferme la dalle sous lui.
Radio Canews a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Du sang pour les élus, dont c'était la troisième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement.